foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Jean Lourd. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous. Vous êtes prêtre missionnaire, vous êtes exégèse, et je vous ai demandé de venir parler de la Toussaint, parce que c'est tout de suite, là, bientôt. Et je pense que beaucoup de personnes dans l'Église catholique et peut-être aussi dans d'autres religions chrétiennes s'interrogent pour la vie après la mort. Et j'avais demandé d'ailleurs au départ à plusieurs amis pasteurs de m'expliquer pourquoi il n'y a pas de statue dans les temples. Voilà, au départ c'était parti de cette question. Donc tous saints, et d'ailleurs nous avons... ensemble réfléchis sur la photo qui serait le support du podcast. Et au départ, je m'excuse, c'est moi qui parle en ce moment, mais c'est pour vous expliquer mes inquiétudes et tout le plaisir que j'ai à vous entendre dans quelques minutes. J'avais pensé en me disant quelles sont les dernières personnes que notre pape François a élevé à la canonisation. On ne parlera pas de tout le processus, c'est compliqué. À Rome, toutes les démarches qu'il faut faire, mais justement, c'était la première famille chrétienne, puisque c'était le papa et la maman de Thérèse de Lisieux. Alors on va dire, ben non, parce qu'ils sont quand même un petit peu représentants de la bourgeoisie et d'une société patriarcale. C'est vrai, combien d'enfants ils ont eu. Et puis, alors, vous m'avez dit, parce que vous êtes allé en Asie.
C'est exact, oui, j'ai été 13 ans professeur d'écriture sainte dans un grand séminaire en Malaisie, où l'on recevait des étudiants donc d'une grande partie du sud-est asiatique, depuis la Thaïlande, la Birmanie, le Laos, le Cambodge, Nord-Bornéo, Singapour et la Malaisie, bien entendu.
Vous aviez tout petit l'envie d'aller en mission,
prêtre missionnaire. Non, je ne sais pas d'où ça m'a... Je suis tombé dedans tout petit... Je voulais être missionnaire, peut-être, vivant dans un petit village de Bretagne, voulais-je partir, aller ailleurs. Certainement, j'aurais pu être explorateur, peut-être.
L'appel du large, mais l'appel du Seigneur.
Il y avait l'appel du large, c'est sûr. Et puis, un jour, m'est tombé entre les mains la vie du bienheureux Théophane Vénard. Et donc, ça m'a incité, justement, à faire ma demande, à rentrer aux missions étrangères.
Alors, bienheureux, ça veut dire qu'il n'est pas encore canonisé. Il est sur la voie
pas, oui.
De la...
Oui,
parce que c'est l'étape juste en dessous, je crois.
Oui, je ne suis pas très familier de tout ce processus de canonisation. D'ailleurs, je voudrais simplement dire, moi, je suis tellement heureux que le pape ait canonisé une famille, mais même si le choix aurait pu être autre, mais enfin, c'est quand on voit que la majorité des canonisations dans les décennies...
Précédents, c'est des rois.
Sont essentiellement des religieuses ou des religieux.
Ou des martyrs, parce que je vous avais proposé.
Et puis il y a eu les martyrs, en effet, les martyrs dont les missions étrangères, d'ailleurs, comptent pas mal. Et c'est vrai. Mais enfin, maintenant qu'on sorte dans le monde, qu'on canonise des gens issus, non seulement issus du laïcat, mais représentant le laïcat, et représentant la majorité, en fait, des chrétiens, des croyants.
Voilà. La vie, j'allais dire,
c'est mon
normal.
Souhait.
Oui, bien sûr.
Parce que, oui, il faut éviter les utilisations ou les calculs, parfois, qu'il
Alors,
peut y avoir.
Pour en revenir, justement, à la photo que nous avions, en fait, sélectionnée, il s'agit de personnes qui sont, en fait, des travailleurs tout simples. Hein. C'est dans l'Action solidaire pour la paix, et c'est dans le Nord Kivu. Mais bon, on en reparlera sans doute parce que ce sont une des figures qui va représenter le carême l'année prochaine.
Cette photo, en effet, me plaisait particulièrement parce qu'on y voit des hommes et des femmes et des enfants avec les outils de travail, c'est-à-dire des gens à donner au travail de la terre, c'est-à-dire au travail de tous les hommes en général. On y voit également la solidarité dans le travail et on y voit la dimension de communauté. Pour ça que ça me plaisait particulièrement.
Mais Dieu seul est saint, Kadosh, chez nos frères juifs. La sainteté, c'est quelque chose d'exceptionnel ou alors c'est justement comme vous le dites, dans la vie de tous les jours. Bienheureux êtes-vous, nous dit Jésus.
La sainteté, en effet, nous sommes tous appelés à la sainteté, nous sommes tous... Mais la sainteté, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a parfois comprise comme étant un état de vie moralement surtout, ou spirituellement, au-dessus de la moyenne. Et donc, beaucoup de chrétiens ont inconsciemment intégré l'idée que la sainteté était faite pour les religieux, les prêtres et les... Bon, l'histoire récente de l'Église nous montre que ce n'est pas nécessairement le cas. Et par contre, que la sainteté, elle est partout et probablement beaucoup plus près de nous souvent qu'on ne le pense. Dans tous les gestes d'amour, de solidarité, de communion, de responsabilité que prennent les gens, les pères et mères de famille, dans des situations souvent difficiles, en situation non seulement de guerre, mais de pénurie ou de non-reconnaissance. Voilà, la sainteté, elle est partout autour de nous, et c'est là, c'est le royaume en fait qui est à l'œuvre. Comme nous dit Jésus, le royaume est proche, il est là, en vous et parmi vous. Et c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire le monde tel que Dieu le veut. Un monde d'amour, de solidarité et de communion. Et ça nous rapproche bien entendu de la fête dont on veut parler, de la Toussaint.
Alors Jésus, je crois, nous parlait avec des images, le royaume de Dieu est semblable. Alors c'est la graine de moutarde, on va dire, c'est aussi la dame qui a retrouvé sa petite pièce, ou celui qui cherche et qui enfin va trouver. Et alors le royaume des cieux?
C'est la même chose, le royaume des cieux, le royaume de Dieu.
Ah bon, c'est pas l'au-delà, après la mort?
Les cieux, c'est un terme qui prend un terme métaphorique pour désigner Dieu.
Ah, moi je pensais que c'était après la mort.
Les cieux sont là, comme Dieu est là.
Aujourd'hui. Toujours, déjà là, pas encore.
Il est là, mais il est encore à construire. Il n'est jamais achevé.
Il
est en marche, en effet.
Le théologien.
Et c'est la chose la plus importante à retenir dans cette fête de la Toussaint, c'est véritablement la manifestation de la communion entre ceux qui nous ont précédés dans ce voyage de foi, d'amour et d'espérance, qui sont partis, qui sont morts et qui vivent, et nous qui sommes encore dans cette première étape de notre marche donc vers la vie, l'amour total.
À ce combat spirituel, peut-être contre nous-mêmes d'abord, comme disent nos amis juifs, le grand djihad, la lutte contre notre ego et contre nos sentiments obscurs.
Mais oui, c'est pour ça, c'est une histoire de libération. C'est Jésus qui nous libère de nous-mêmes, progressivement. Quelle manière? Non pas en nous arrachant à des choses importante, non pas en nous arrachant à notre vie, au contraire en nous responsabilisant, mais en nous montrant que plus nous serons tournés vers les autres comme il l'a été, plus nous vivrons et plus nous serons libérés de nous-mêmes, le dernier pas étant à faire au jour de notre mort.
On a parlé de la sainteté, sanctus, on a parlé, on ne peut pas se sauver tout seul, donc agneau de Dieu, prends pitié de nous, ou le Kyrie, c'est les prières en fait du culte.
Bien sûr que l'homme est par lui-même limité, quelles que soient ses valeurs, quels que soient ses dons, ses charismes, il reste limité, il reste aussi pécheur. Tous nous sommes pécheurs, tous les hommes sont pécheurs, et donc il y a tout un travail de libération à faire, et c'est pour ça que nous avons besoin des uns des autres et également de Dieu. Dieu agissant souvent d'ailleurs par les autres. Comme on le voit dans l'histoire de la Syrophénicienne, qui vient voir Jésus en pays païen et qui vient lui demander son aide. Et Jésus n'a pas compris. Jésus, tout d'un coup, il réalise qu'après tout, il a été envoyé au peuple d'Israël, certes, mais il a été envoyé aussi peut-être plus largement. Et donc, c'est par les autres que l'amour de Dieu vient nous appeler et nous aider à grandir dans ce don aux autres, dans cette marche qui nous libère finalement jusqu'au jour où nous ne serons plus que des sujets, des membres d'une communauté en pleine communion.
Mais j'entends dire, hors de l'Église, point de salut. J'entends dire, vous êtes exégèse, le purgatoire n'existe pas. J'entends plein de choses. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi votre explication. Le purgatoire pour vous? C'est l'enfer, le paradis, c'est des mythes.
L'enfer, il est intéressant de noter d'ailleurs que l'Église orthodoxe ne croit pas à l'enfer. Parce que, pour une raison tout à fait logique, semble-t-il, parce que l'homme est limité, tout homme est limité, et quels que soient ses péchés, ses fautes, ses crimes, il reste toujours limité. Et il ne peut pas y avoir d'adéquation entre un homme limité et une peine ou une situation d'éternité. Il y a là une inadéquation totale. Quant au purgatoire, qui bien sûr fait l'objet également de beaucoup de discussions chez les théologiens dans le passé, le purgatoire qu'on a d'abord présenté comme un lieu, ensuite comme un temps, comme une période, ou comme un état, enfin, diverses interprétations ont été données. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Toute la manière dont on en parle est bien sûr très imagée, c'est normal, puisque c'est des choses que nous ne pouvons pas voir. La seule chose qu'il faille retenir, c'est que pour arriver jusqu'à Dieu, pour vivre en lui, en plein amour, dans son amour éternel, dans son amour total, bien sûr qu'il y a tout un travail de purification qui se fait en nous, mais le purgatoire commence maintenant. De même que l'enfer existe maintenant, hein, et le purgatoire aussi.
Alors,
et également le royaume. Donc on a là véritablement toute une alchimie, hein, tout un travail qui se fait aujourd'hui, là, dans les choses toutes simples de la vie.
Et pouvoir rendre grâce à Dieu, vous nous avez apporté le psaume 130, vous nous avez apporté aussi la petite parabole de la chenille et du papillon, mais tout de suite d'abord, cet Alléluia que vous nous apportez de Leonard Cohen, parce que justement, cette joie de la rencontre de Dieu, elle transcende toutes les religions.
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah. From your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Jean Lourd, vous êtes prêtre missionnaire, exégète, et vous venez nous parler de la Toussaint. Et nous avons chanté cet Alléluia de la joie, j'allais dire, d'être sauvé, même si le combat pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux, est parfois avec des douleurs, et que beaucoup de saints sont ces martyrs. Comme dernièrement, nous avons entendu parler de ces 44 martyrs du Makivu au Nigeria et puis bien d'autres, que ce soit en Ukraine ou en Asie, là en Asie où vous étiez comme missionnaire. Et vous nous parlez de ce moment où nous attendons de manière active ce royaume de Dieu.
La Toussaint, en effet, c'est une grande fête, une fête très joyeuse.
D'obligation ?
Oh, je ne sais
Pardon.
Pas. Je ne sais pas si c'est encore d'obligation.
Ça l'était avant.
Elle l'était, oui. C'est une fête très joyeuse parce qu'elle rassemble le peuple de Dieu réalisé, arrivé à terme, arrivé à son terme, et le peuple de Dieu en marche. Et je crois que pour tous les chrétiens, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi la communion avec tous les gens qui nous ont précédés, que nous avons connus, qui ne sont plus là, et d'où et la proximité de la fête, bien sûr, de la Toussaint et de celle des morts. Mais je n'y verrai qu'une seule fête. Je n'y verrai qu'une seule fête. Et cette communion-là avec tous ceux qui nous ont précédés était un encouragement très fort à les imiter dans ce qu'ils ont pu faire de bon, d'utile, d'important. Et également nous donner de l'espérance que si eux ont pu marcher, être fidèles à Jésus et à ses commandements d'amour, eh bien peut-être aussi avec leur aide et avec l'aide les uns des autres, nous pourrons parvenir aussi à réaliser cet amour dans le monde qui est le nôtre, dans le petit monde de chacun.
Oui, mais alors j'avais pensé à un moment qu'on aurait pu prendre le cantique « Tous ces voyageurs, ils ont tant mérité, récompense-les ». Est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que Dieu nous récompense ? Mais Luther nous dirait « Le salut est gratuit ». On n'est pas sauvé par seulement nos œuvres, on est sauvé par la grâce.
Parce que l'amour est gratuit et que l'histoire de Dieu avec les hommes, c'est une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire de marchand. C'est pas une histoire.
Marchand, ça veut dire que alors, je veux acheter mon salut et c'est ce
exactement,
contre quoi Luther s'est opposé.
Mais oui, les ça indulgences. A parfois été perçu comme cela, avec toute une certaine théologie du mérite, avec les indulgences, en effet, qui, à mon avis, ne devraient plus avoir lieu d'être.
Ou alors Dieu qui sacrifie son fils parce qu'il se venge.
C'est aussi toute la théologie du sacrifice.
L'être aux Hébreux.
Dieu a-t-il besoin de se venger ? Ou alors nous avons une piètre idée de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se venger. Il n'a pas besoin de se faire encenser. Il a besoin d'être aimé. Et c'est ça le grand mystère de Dieu. J'ai étudié beaucoup et j'ai écrit sur le Pentateuque, sur la Genèse en particulier, sur la création. Et la grande question qui me venait à l'esprit, c'est pourquoi Dieu a-t-il créé ? Avait-il besoin de quelque chose d'autre que de lui ?
Est-ce que Dieu est plus heureux ?
Pour moi, c'est une manifestation de son amour, que Dieu est amour.
Est-ce que Dieu est plus heureux quand nous le prions, quand nous l'adorons ? Est-ce qu'il est heureux que nous soyons heureux ?
Oui, je ne suis pas à sa place pour dire s'il est heureux ou pas. Mais je sais qu'il ne peut qu'être amour, de toute façon.
Il peut souffrir de voir les autres souffrir.
Et étant amour, eh bien, s'il crée le monde, les hommes, les humains, mais également tout le monde qui environne l'humanité, c'est-à-dire les animaux, les plantes, enfin, tout ce qu'il a créé, tout cela est l'expression de son don. C'est ainsi, en tous les cas, que je le comprends, que je comprends la création comme véritablement l'expansion de l'amour infini de Dieu.
Est-ce que nous avons besoin de statues, de modèles dans nos églises, dans le lieu de nos cultes ? Vous savez que dans les temples, ils ont demandé à ce qu'il y ait peut-être un peu plus une purification par rapport à certaines idoles.
Mais bien sûr, c'est le grand débat au sujet des icônes. Déjà au début de l'histoire de l'Église, entre les églises iconiques et aniconiques,
en Grèce,
c'est-à-dire
oui.
Avec image ou sans image, c'est qu'Israël ne voulait pas d'image de Dieu. Ils en ont fait, le veau d'or est là pour en témoigner. Le veau d'or n'était pas un autre Dieu, c'était le Dieu d'Israël, mais on lui avait donné une forme humaine de manière à pouvoir l'apprivoiser et le garder sous notre maîtrise. Alors, bien sûr que les icônes, les statues, les images ont donné lieu à beaucoup d'excès. Ça, c'est certain.
Et à la Révolution, on a cassé aussi toutes les statues qui étaient dans nos cathédrales.
Oui, alors là, c'était pas nécessairement pour la même chose. Mais ceci étant, les statues dans nos églises, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Je préfère ça, si c'est relativement modéré, à des églises toutes nues. Parce qu'elles sont aussi une image de ce que nous sommes. Nous sommes un peuple.
L'incarnation également.
Nous sommes un peuple et nous sommes environnés de gens qui sont là pour nous inspirer, pour nous aider, pour nous conduire. Mais à condition toutefois que c'est, bien sûr, ces statues ne prennent pas la place centrale de notre assemblée, de nos assemblées chrétiennes.
Nous sommes aussi devant l'inconnu, le mystère. Est-ce que la chenille peut savoir que lorsqu'elle aura ouvert la chrysalide, elle sera papillon ? En un autre mot, y a-t-il une cohérence lorsque nous parlons de la résurrection de la chair, alors que, en fait, peut-être ça sera l'esprit ? Nous serons dans un autre monde, un autre espace-temps.
C'est ce que dit saint Paul, d'ailleurs, très clairement, à ses lecteurs qui s'interrogeaient sur, justement, la manière dont les morts ressusciteraient. Saint Paul le dit clairement dans l'Épître aux Romains. On ne sait pas. Nous sommes nés charnels et nous ressusciterons spirituels.
Mais nous sommes nés à un moment du temps, et c'est ça le grand mystère, parce que nous ne savons pas ce que deviendra notre conscience.
Ceci étant, nous sommes en devenir. Alors, pour nous chrétiens, nous pensons, nous croyons, et je crois, que ce devenir se réalisera dans un aboutissement total, et donc la mort, l'amour sera plus fort que la mort, et que la mort est un passage, oui, comme les écrivains l'ont toujours présenté. Et la mort est un passage, mais cette mort et cette résurrection, nous les vivons déjà. La résurrection, nous la vivons déjà. Quand un sourire vient à moi, quand un mot d'amour vient à moi, eh bien c'est Dieu déjà qui se montre, et c'est moi qui suis aussi appelé à partager cette joie, cet amour. Mais bien sûr, on s'interroge beaucoup et les gens demandent fréquemment « qu'est-ce qui se passera après ?» Je n'en sais rien. De toute façon, notre foi n'est pas un savoir de la raison. Notre foi et nos convictions sont des convictions de foi et d'espérance. Et là, si nous sachions déjà ce que nous serons, il n'y aurait plus d'espérance, comme dit saint Paul encore.
Alors, on s'adresse au bon Dieu autant qu'à ses saints, mais j'aime beaucoup cette phrase que nous chantons, n'est-ce pas, avant la litanie des saints, saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde.
Mais oui, c'est ça.
Prié pour nous.
C'est ça, cette fête de la Toussaint est là pour nous rappeler justement tout ce pèlerinage qui est commun avec tous les hommes de la terre, pas seulement nos frères chrétiens, mais avec tous nos frères humains. C'est un pèlerinage vers plus d'amour, vers plus de vérité, vers plus de justice et de paix. Il y a du travail, il y a encore du travail à faire. Mais nous sommes dans ce grand voyage-là. Et personnellement, pour moi, la fête de la Toussaint, c'est véritablement la fête de la communion des saints, et qui déborde toutes les frontières de la vie, et les frontières, je dirais, des fois, des croyances et des religions.
Et avec nos frères juifs, ce psaume que vous nous avez apporté, qui conclura notre entretien,
oui.
Psaume 130.
Et oui, c'est un psaume que j'aime beaucoup, parce que c'est un psaume qui nous rappelle à la fois que nous ne pouvons pas, nous devons renoncer en quelque sorte à savoir, si nous voulons espérer. Je lis ce psaume donc. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis pas de grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. »
Merci Jean, merci à Christophe pour la technique, et bonne fête à tous les saints, à tous ceux qui sont appelés à devenir saints. Et bientôt, je crois, nous aurons le point de vue de notre ami pasteur pour être le complément de notre réflexion sur la sainteté de Dieu.
Je vous remercie également pour votre invitation.